Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports hebdomadaire de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, et une émission que vous pouvez non seulement suivre dans votre poste radio, mais désormais aussi alors sur Facebook, le Facebook Live de RFI, sur notre page donc, mais aussi désormais sur la chaîne YouTube de RFI, où là aussi vous pouvez nous voir là en chair et en os, donc en gros vous ne pouvez pas nous rater. Alors les invités aujourd'hui dans cette émission, je vous les présente tout de suite. Ils sont là, le duo Xavier Barré et Rémi Ngono. Bonjour messieurs, un en rouge, l'autre en bleu. Je sais pas si c'est fait exprès, mais bon.
Bonjour Annie.
Bonjour, mais tu as, vous avez pu constater que là, il a commencé par le trucage. Voilà. Ah, il a trois verres devant lui de drogue. C'est pas possible. Et
à plus, mais c'est parce qu'il fait du vélo.
C'est parce que moi, je viens en vélo, et pas en voiture, monsieur Ngono.
Moi, je
ne pollue pas.
Mais c'est pas possible.
Je fais des économies de CO2 pour la planète.
Messi sort de ce corps.
Messi n'est pas au programme aujourd'hui, Rémi. Enfin, théoriquement. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour, Annie.
Ça va bien ?
Ça va, très bien.
Vous, l'homme du football anglais, l'homme du 100% foot, le podcast qu'on peut entendre aussi sur la page Facebook.
Ouais. Et j'aimerais remercier tous ceux qui m'écoutent en Afrique parce qu'ils sont extrêmement nombreux et à chaque fois ils m'envoient des messages et je les remercie pour leur fidélité.
Xavier peut en témoigner, votre voix porte dans le continent africain et après il y a des messages. Le réfet le sait depuis longtemps. Bonjour Alejandro Valente.
Oui, bonjour. Ça va ?
Notre stagiaire, il fait son dernier jour aujourd'hui avec nous. Bonjour Alf Samouri.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être dans Radio Foot International. Vous tous et dans ce Café des Sports, nous évoquerons les belles rencontres attendues à travers l'Europe ce week-end. À Madrid, le derby de la capitale espagnole avec le Real, leader de la Liga, qui jouera sa place au sommet au stade Metropolitano de l'Atlético. Deux équipes encore fragiles, mais qui ont un savant mélange de cadres expérimentés et de prometteurs joueurs jeunes. Simeone, en tout cas provocateur, pense que ces colchoneros peuvent l'emporter. Regardez pas comme ça, Rémi. À Milan, les Rossoneri, déjà en perdition, reçoivent une Viola emmenée par Franck Ribéry. Le grand Milan d'hier a bien du mal, saison après saison, à retrouver le panache des années Berlusconi. Spirale négative pour le club et pour son entraîneur. Le Calcio qui a pris ce matin une première décision concrète contre le racisme. Courageuse Roma, nous vous expliquerons. En Angleterre, l'heure de se redresser peut-être pour les Mancuniens qui recevront à Old Trafford des Gunners très conquérants. Un jeune prodige, encore un, pourrait peut-être aider Manu à se refaire. Il s'appelle Mason Greenwood. Et puis, nous irons faire un tour aux États-Unis. Un Englishman in Miami, David Beckham, ex-roi des pelouses, mais toujours roi des podiums. Il est à la tête de l'Inter Miami, un club de MLS en pleine conquête de l'Ouest. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Allá en España, la madre patria, sí, en Madrid, mi Atlético de Madrid, es un derbi maravilloso, me dice.
Au sein de la capitale est à nouveau remise en question. Le derby madrilène revient.
Mentality. Derby is all about mentality. If you want more, you win.
Au mental, un mois avant le Classico programmé au Camp Nou le 26 octobre prochain, un derby madrilène. L'Atlético reçoit le Real, deux équipes en tête de la Liga, mais aussi deux équipes qui tentent de se reconstruire, de changer d'époque, on va dire. Les Colchoneros de Simeone ont dû apprendre à jouer sans Antoine Griezmann. Les Merengues de Zidane n'arrivent toujours pas à combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo dans un championnat où le titre de champion, on le sait, se dispute au moins aujourd'hui à trois équipes. Ce face-à-face entre le Real et l'autre club de Madrid, comme on dit parfois en Espagne, cette opposition entre le club des riches et le club du peuple madrilène, vaut-il encore aujourd'hui ? En tout cas, Zinedine Zidane, ce matin, interrogé sur ce sujet, a balayé ce qui est pour lui, semble-t-il, une caricature.
Je ne rentre pas dans ce genre de débat. Je dirais juste qu'ici, on travaille, on se lève tôt pour ça, on travaille beaucoup, tout le monde. Maintenant, si de l'extérieur, on dit que l'un est un club de riches et l'autre est un club populaire, bien ça, je ne peux pas le changer. Mais ce que je peux dire, c'est que les madridistas veulent simplement être fiers de leurs joueurs et on y travaille.
Alejandro Valente, est-ce que ça vaut toujours ce genre de parallèle, alors que par exemple cette saison, João Félix a été recruté pour 126 millions d'euros du côté de l'Atlético, plus cher qu'Eden Hazard?
Oui, disons qu'il y a toujours quand même un écart assez important en termes des moyens en faveur du Real Madrid. Cela dit, tout ça a tendance à s'estomper. Aussi, les côtés populaires de l'Atlético, il est réel.
Du supporter.
Et quand on va à Madrid, on est frappé par la grande quantité des supporters de l'Atlético qu'on croise.
Dans la ville.
Alors qu'on imagine que tout le monde est supporter du Real, on est très loin de ça. Mais le Real, avec ses récentes conquêtes, etc., a gagné quand même beaucoup de supporters, surtout dans le public plus jeune. Donc tout ça a tendance à s'équilibrer. Madrid a la chance d'avoir deux grandes équipes. Et aujourd'hui, les deux sont quasiment en tête de la Liga. Donc c'est un derby qui tombe vraiment très bien.
Rémi, vous supportez le club des riches ?
Quand on dit club des riches, c'est comme si les autres étaient très pauvres, comme ils viennent de le souligner. Il faut quand même se dire que le Real, bien qu'ayant eu à remporter 3 Ligues des Champions, ne recrutait pas comme Atlético.
C'est la couronne qui fait le côté riche.
Ne pas comme Atlético. Atlético, c'est 243 millions cet été. Ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas que...
Il y a des ventes aussi.
Oui, mais n'oubliez, surtout pas aussi que le Real, entre-temps, n'achetait pas. Donc, il faut se le dire. Et quand on regarde les 4 dernières années, c'est Atlético qui a recruté plus que le Real.
Ils ont recruté pour combien cet été, le Real Madrid?
307 millions. Ouais, c'est ça. Et ça, ils n'ont pas recruté depuis. Il faut le savoir. Ils n'ont pas recruté depuis.
Le marché est fermé.
Les années antérieures, ils ne recrutaient pas. Ils n'ont plus que Eden Hazard. Et puis, certes, vous allez voir aujourd'hui les Rodrigo, Militao ou encore les Kobe qui sont d'ailleurs prêtés ailleurs. Donc, quand on essaie de voir, c'est un club qui n'a pas beaucoup recruté pour dire que...
Alors, vous êtes chez les riches ou chez les pauvres? Non, vous
êtes...
Moi, pour l'instant, je suis...
Vous avez une couronne.
Je suis chez... Le riche palmarès. Et le riche palmarès, c'est celui qui remporte les Ligas, qui remporte les Ligues des Champions, les championnats du monde. Et je me rends compte qu'aucun autre club au monde ne peut parler à côté du Real, même pas celui qui prétend être mon RF uniquement au micro. Mais pour les moyens, il est derrière nous. Et pour les trophées, il est derrière nous. Barça, c'est combien de Ligues des Champions?
C'est 5, hein?
D'accord. Même pas la moitié.
Vous savez qu'il y a eu une longue période où l'Espagne n'était pas un pays démocratique et où certains clubs était plus poussé que d'autres.
Ah, il faut pas dire ça.
Xavier Barret, est-ce que ça vaut encore dans l'esprit des gens cette division? Est-ce que c'est très espagnol par rapport surtout à l'internationalisation des supporters du Real?
Mais quand vous allez à Madrid ou quand vous adressez à des gens de Madrid, vous leur dites Real ou Atlético et ils sont forcément pour le Real ou pour l'Atlético. C'est une vraie
rivalité. Oui, mais est-ce
rivalité
que ça correspond à des classes
familiales? Historiquement, oui. Maintenant, c'est vrai que, comme l'expliquait très bien le Jefe, ça s'estompe. Parce qu'effectivement, il y a des gens des classes populaires qui soutiennent le Real, et il y a des gens riches aussi qui soutiennent l'Atlético. Parce que, il y a besoin d'argent aujourd'hui, et historiquement, des gens qui sont issus de familles populaires ont pu réussir dans la vie et sont restés fidèles à leur tradition familiale de soutien à l'Atlético, même s'ils ont réussi dans la vie. Donc, c'est vrai que ça s'estompe avec le temps. Et puis après, il y a quand même une vraie différence, dont on n'a pas encore parlé, c'est que le Real reste un club de socios, donc qui est propriété de ses supporters, alors que l'Atlético est un club entre guillemets capitalistique, puisqu'il y a une partie du capital qui est détenue par le groupe chinois Vanda, qui a donné son nom au stade, même s'ils ont réduit leur participation récemment.
Oui, l'actionnaire
majoritaire, je crois, c'est un Israélien. Voilà, donc le président Enrique Salazar. Donc c'est exactement ce qu'on disait, Rémi, ça s'estompe.
Bruno, oui,
pour rebondir sur ce que disait Rémi, je suis d'accord, l'Atlético Madrid n'est pas un club de pauvres. Enfin, en tout cas, il ne l'est plus, parce qu'aujourd'hui, c'est un club très riche. Mais le Real Madrid, c'est quand même le club le plus riche du monde. C'est quand même le club des Galactiques. C'est le club qui a battu deux fois ou trois fois le record de transfert avec Cristiano Ronaldo.
C'est le club qui brille.
Après Gareth Bale, plus de 100 millions à chaque fois. C'est quand même le club des stars. Et c'est le club qui fait rêver dans le monde entier, parce que les stars vont jouer, vont porter ce maillot blanc.
Alors,
ça reste un club au-dessus.
Qui va gagner ce match, évidemment, ce derby madrilène? Tout le monde se pose la question. D'un côté, on a Diego Simeone. Alors, il a, lui, dans son effectif, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, et on va en parler tout au long de cette émission. Alors, ils ont acheté donc chèrement João Félix, le portugais, alors que Zinedine Zidane, lui, on a eu la sensation, même s'il fait rentrer des jeunes, qu'il aller plutôt miser sur ces cadres qui sont pris du repos ces derniers jours. Sa BBH, hein, il faut l'appeler comme ça désormais, Alejandro, Benzema, Bale, Hazard, Hazard dont on attend encore beaucoup. Diego Simeone, en tout cas, lui, il compte aussi sur ses cadres expérimentés. Et évidemment, en tête de pont, on le sait, Diego Costa.
Je suis vraiment content parce que Diego Costa a retrouvé le chemin des filets. Il avait besoin de marquer. C'est l'un des joueurs clés de notre attaque. Je dis toujours que lorsque des joueurs comme Morata, Correa et Diego Costa sont bons, l'équipe a de grandes chances de gagner. Et bien sûr, sans oublier le talent de João Félix.
Alors, il pense qu'il peut gagner ce derby, Rémi. Je pense qu'il a dit ça exactement pour vous aujourd'hui dans le Café des Sports. Est-ce que, pour vous, il y a un avantage à cette équipe qui, évidemment, joue dans son beau stade tout neuf du Metropolitano, ou est-ce que ça va être une rencontre équilibrée? Le Real est premier, mais on sait que c'est encore un peu en dents de scie, tous ces résultats de ces deux équipes.
N'oubliez pas que le Real sort d'une grande maladie et que, d'ailleurs, pendant l'été, Atlético a battu le Real par un score fleuve des 7-3. Donc,
qui a laissé beaucoup de marques dans les têtes.
Qui a laissé beaucoup de marques, mais ce Real-là, comme je le dis, même quand il gagnait des Ligues des Champions, ce n'est pas un Real qui était rayonnant pendant les matchs de amicaux, les matchs de préparation. Et aujourd'hui, quand on essaie de regarder, vous dites que c'est un bon... Mais un champion, c'est un champion. Pour l'instant, ils sont leaders. Le Real est devant Atlético dans tous les domaines, peut-être seulement un peu sur le plan défensif, parce que si on regarde le nombre de buts, le Real aujourd'hui, c'est le double du nombre de buts d'Atlético qui n'a marqué que 7. Alors qu'on me parle de l'attaque d'Atlético qui a quand même aussi souffert beaucoup au dernier match. Certes, ils ont une circonstance atténuante que Morata a été expulsé, mais quand on essaie de voir aussi cette équipe... Quand on essaie de voir le Cholissimo, cela veut dire c'est la défense.
Or, Cholissimo.
Aujourd'hui, on voit que cette défense n'est plus rayonnante comme celle de 2016 où vous aviez peut-être 24 clean sheets réalisés par Oblak. Mais aujourd'hui, ils encaissent beaucoup de buts parce que vous n'avez plus les Yao Miranda qui étaient là, même Jiménez actuellement, il n'est même pas là actuellement. Et puis, ils ont fait d'autres petites recrues qui ne parviennent pas encore à s'imposer. Et du coup,
ils ont perdu des vrais cadres. Voilà, même derrière.
Et du coup, on se dit que ce mur en béton armé n'est plus aussi blindé que ça. Il y a quelques petites fissures.
Il y a quand même eu 10 départs à l'Atlético cet été, ce qui est colossal. Moi, j'ai eu l'occasion de les commenter sur Canal.
Mais surtout des grands, cadres.
Des joueurs importants.
Qui étaient la marque de cette équipe Simeone.
Notamment Diego Godin, bien sûr, mais aussi Griezmann, également au milieu de terrain. Donc, il y a eu dans toutes les lignes, elle a été retouchée, cette équipe. Moi, j'ai eu l'occasion de les commenter lors de leur déplacement à la Real Sociedad, où ils ont perdu leur première défaite de la saison, lors de la 4e journée. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une volonté de la part del Cholo Simeone d'avoir une nouvelle philosophie de jeu, de jouer. Mais ils n'y arrivent pas parce que, au fond d'eux-mêmes, malgré ces grands changements, il y a encore cette tradition de défendre et de jouer en contre. Voilà. Donc, ils sont dans une phase de mutation. Et je trouve que pour une équipe en mutation, avec 10 départs et, je crois, 8 ou 9 arrivées, c'est quand même pas mal de les retrouver là, déjà en tête de la Liga.
Bruno?
Oui, ben, complètement. Je suis tout à fait d'accord.
Ils sont en première loge. Vous êtes toujours en train de vouloir rabaisser le Real. Mais attendez, ils ne sont pas en tête.
Non, mais ça, c'est sûr.
Ils ne sont pas en tête. En tête,
ils sont sur le podium.
Voilà. La langue française est claire, nette, précise. N'embrouillons pas les gens.
Non, mais c'est clairement une équipe qui est en mutation, qui est en transformation. On va voir vraiment si Diego Simeone va aller pousser pour transformer cette équipe. Moi, ça me fait penser un peu à Chelsea. Après le départ de José Mourinho, toutes les années qui ont suivi, il y avait des nouveaux entraîneurs sur le banc avec des philosophies différentes de celles de Mourinho, mais l'équipe jouait quasiment comme elle l'était sous Mourinho, c'est-à-dire qu'elle avait toujours cet ADN un peu défensif.
Ce réflexe,
parce que c'est dans les gènes, parce qu'ils l'ont appris, parce que ça a été inculqué au sein de l'effectif. Là, il y a ces différences. Simeone n'est pas parti, mais le fait de vouloir changer de façon de jouer, forcément les joueurs l'ont encore en tête, et puis c'est leur base, c'est leur ADN, c'est comme ça qu'ils se rassurent aussi. Mais à Mallorca par exemple, ils étaient très offensifs,
ils avaient 62% de possession lors du dernier match, 7 tirs à la première.
Il y a une différence entre avoir cette possession face à des équipes faibles comme Mallorca et l'avoir face au Real Madrid. Est-ce que face au Real, ils sont capables de le faire? Non, ils vont revenir au principe d'avant.
Ils ne peuvent pas avoir cette possession.
Alejandro, un match plutôt équilibré selon vous, a priori?
Oui, disons que l'Atlético, on l'a un peu dit, a le mérite de se remettre en cause et d'essayer de trouver des nouvelles voies pour exprimer cette espèce de combativité qui les caractérise et qu'on a vu avec la Juventus, où ils ont réussi quand même à remonter à force de courage à un résultat adverse. Le Real est plutôt dans sa zone de confort. On a vu Zidane qui a osé quelques modifications en semaine face à Osasuna.
C'est pas avec, quelques 8
avec Rodrigo, mais je pense que pour le match contre l'Atlético, on va revenir quand même à un schéma très classique. Donc voilà, Zidane tente des choses quand il est un peu forcé et contraint, mais malheureusement, il reste très conservateur à mon goût. Mais je pense que ça va être comme tous les derbies, c'est un match à part. Donc même si une équipe semble mieux que l'autre, ces matchs sont différents, défient souvent la logique.
Rémi, ces deux jeunes qu'on a vus. Alors Rodrigo n'est pas dans le groupe hein, pour jouer ce derby, mais Vinicius qu'on avait vu beaucoup l'année dernière et qui semble revenir. On a vu son émotion quand il a marqué ce but l'autre jour, celui.
C'est le cinquième but sous le maillot.
Oui, mais qui le ramène dans le groupe des attaquants finalement, parce que là il en avait disparu à cause de cette opération à la cheville. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir du Real que Zidane va travailler sur ça?
Ah oui, c'est l'avenir. Il faut savoir que Vinicius aussi fait partie de ce projet que le Real actuellement.
Oui, mais quand il est arrivé, Zidane, il l'a vite écarté quand même.
Oui, mais parce que en même temps, quand on arrive au Real comme ça, on ne se met pas directement dans le grand bain. Et n'oublions pas quand même aussi que Zinedine Zidane avait un autre sur lequel il devait beaucoup compter, c'est-à-dire que Lucas Vázquez, qui avait fait 52 apparitions, et c'est quelqu'un qui, sur le plan défensif, est très important. La preuve, c'est que vous l'avez souvent vu dépanner au niveau du couloir quand il n'y a pas un latéral. Donc, c'est un joueur beaucoup plus performant que Vinicius. Comme Zinedine Zidane le dit, n'oubliez pas qu'ils n'ont que 18 ans. On ne peut pas prendre ces enfants-là comme Rodrigo et tout et tout et tout. Mais aujourd'hui, quand il disait que Zinedine Zidane est conservateur, oui, parce que en même temps,
est-ce que c'est par la force des choses?
C'est pas autrement dit, il n'aurait pas eu le résultat qu'il a eu là à Bernabéu en changeant de gardien, en changeant totalement la défense, enfin en ne conservant que peut-être Ramos, en mettant 8 et puis en titularisant par exemple, et Militao et tout ça. Donc, à une certaine période, on se dit qu'il les suit à l'entraînement. Et il a dit, je n'ai pas d'équipe A, je n'ai pas d'équipe B. J'ai 25 joueurs sur lesquels je compte.
Oui, donc, mais c'est vrai qu'il compte souvent sur les mêmes.
Ça, c'est du discours. La réalité, c'est qui est-ce qui l'aligne, qu'est-ce qui fait jouer.
Toute équipe a d'abord une ossature. Oui, c'est-à-dire que quand vous êtes au Paris Saint-Germain, vous savez d'avance que Neymar va jouer, vous savez d'avance que Mbappé va jouer, vous savez d'avance quelle est l'équipe. Ou tu peux me dire, par exemple, voilà, le Barça.
Regarde, attends, c'est ça, impossible. C'était dans le journal Marca ou dans le AS à la fin août. Et il se posait la question de dire, est-ce que Zidane va vraiment changer les choses? Parce que le résultat, c'est quoi? C'est que sur le 11 d'il y a 3 ans, il y en a encore 9 qui sont là. Donc, on attendait
pour
la
nos
révolution
auditeurs,
Zidane.
Puisque vous pensez voilà. Beaucoup à ceux qui nous regardent.
Non, mais je le mets pour le Facebook. Ça veut dire.
C'est l'équipe de l'année dernière, en fait.
Il y a 3 ans.
Il y a 3 ans. Et il y a le Chinois qui se retrouve dans le club de FIFA. Donc, tu voudrais qu'on enlève Ramos, on enlève Benzema, on enlève Bale, on enlève Modric qui vient d'avoir le ballon d'or. Tu voulais qu'on enlève qui?
Mais attends, mais c'est
qu'on les mette dans la poubelle.
Tous ceux qui observent le Real Madrid disent cette équipe est usée. Cette équipe est au bout du rouleau. D'ailleurs, il y a encore. Des statistiques du Centre d'International d'études du football qui est publié aujourd'hui et qui dit qu'effectivement l'équipe qui a l'effectif le plus stable, c'est le Real Madrid. Mais est-ce que c'est le plus stable ou est-ce que c'est le plus sclérosé? C'est-à-dire l'effectif où il n'y a pas de renouvellement. Alors pourquoi? Parce que Zidane n'a pas obtenu les joueurs qu'il voulait effectivement, mais aussi parce qu'il a refusé celui qu'on lui proposait. Moralité, on a une équipe qui est complètement sclérosée. Alors effectivement, pour amuser Mingono, on met de temps en temps Rodrigo.
On ne sait plus encaisser.
On met pour amuser Mingono.
On met
Rodrigo. 5 minutes, on met Vinicius contre une équipe de fond de tableau. Mais sinon, ce sont les mêmes. Mais sinon, ce sont c'est pas moi qui invente.
Mais c'est le journaliste qui suit.
Ceux qui suivent le Real Madrid.
Oui, mais je suis le Real Madrid, je suis journaliste comme eux.
Ah, ça fait longtemps que tu n'es plus allé à Madrid.
Le moment où je pars,
ça fait longtemps que tu n'es plus allé à Madrid.
Ils ont gagné quoi la saison dernière, le Real?
Et le Barça a gagné la Ligue des Champions quand même.
Non, mais on va, alors, on va s'arrêter sur le.
C'est 4-0.
Mais Rémi, on ne parle pas du Barça. Rémi, on ne parle pas du Barça aujourd'hui. On n'en est pas du tout à ce match-là. On était à Madrid. Et donc, on va partir de Madrid pour aller en Italie. Car à peu près à la même heure, dans le nord de l'Italie, une rencontre très importante dans le stade de San Siro. La rencontre entre le Milan AC et la Fiorentina. Alors une Viola qui semble retrouver quelques couleurs pourpres grâce au recrutement de Franck Ribéry qui a marqué son premier but la semaine dernière. Mais un Milan, lui, qui semble couler à pic. Il se retrouve 13e de la Serie A avec un seul point en plus. Milan qui a pourtant de l'argent, qui a beaucoup dépensé pour recruter cet été. Puis on se souvient l'année dernière de ce fameux aller-retour de Bonucci. En tout cas, c'est une équipe qui, depuis 2013, n'est plus dans les quatre premiers du classement en Italie. Le champion d'Afrique, Ismaël Bennacer, a été recruté notamment cette année. On a surtout un nouvel entraîneur, Marco Giampaolo, qui aurait dû faire des miracles du côté du Milan. En tout cas, c'est ce que promettait Sacchi. Mais on se rend compte, Xavier, qu'on a l'impression que ça ne marche pas du tout et que le Milan, qui vient de perdre très sèchement 3-0 le derby face à l'Inter, n'arrive pas à tourner la page finalement de cette période faste où c'était un géant européen à l'époque d'un investisseur qui était Berlusconi.
Et qui a perdu encore hier soir à Turin contre le Torino 2-1 alors qu'il menait 1-0.
En plus.
Et ils ont perdu sur la fin un doublé de Bellotti, match que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Donc il y a vraiment une inquiétude à Milan, mais c'est une inquiétude, il faut pas se leurrer, qui est liée au manque de moyens financiers du club.
Mais ils ont de l'argent, ils recrutent avec beaucoup d'argent.
Ouais, ils ont pas autant d'argent que ça. Il faut rappeler quand même que les
pas
Chinois.
Autant qu'avant, c'est ça?
Oui, à l'époque de Berlusconi. C'est
le
club le plus riche du monde.
Alors, plus que de l'argent.
Bien sûr, non, mais c'est effectivement il y a ça. Mais à l'époque de Berlusconi, c'était le club le plus riche du monde. Alors effectivement, il y avait une logique financière et sportive avec effectivement des entraîneurs. Mais à la limite, quand Sacchi arrive, on le connaît pas en Europe. Et il bâtit une équipe révolutionnaire. Et derrière, Capello prend le relais. Il change la physionomie du football en Europe en pratiquant un football exceptionnel et offensif, ce qui était vraiment pas le cas en Italie. Or, aujourd'hui, le Milan a perdu cette capacité à créer, à recréer et à se recréer lui-même. Moi, j'ai ce souvenir quand je suis allé à Milanello il y a quelques années, j'étais encore à l'équipe MAG, visiter le centre d'entraînement. Et donc, je découvre ces installations qui étaient jusqu'alors cachées du public, qui étaient exceptionnelles. Qui était considéré comme la référence au niveau européen. On a eu l'occasion de parler avec le médecin-chef, on dit parfois le magicien de ce club de Milan. Et je leur ai dit, mais finalement, moi, Milanello, je suis pas si impressionné par rapport à ce qu'on voit dans les autres clubs européens maintenant. Et il me dit, mais parce qu'on n'a pas les moyens de développer. Il me dit, on a été les premiers, on a été les pionniers dans ce domaine, mais aujourd'hui, on a été dépassés par d'autres clubs en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Donc aujourd'hui, même, vous voyez, au sein même de Milanello, dans la base du club, on reconnaît qu'ils ont plus les moyens financiers pour faire face à la concurrence extérieure. Et ça se traduit sur le terrain, inévitablement. Ils ont beau essayer de recruter, et c'est vrai qu'ils avaient fait un gros recrutement il y a deux saisons, et bien à l'arrivée, il y en a plein qui sont repartis parce que derrière, il n'y avait pas de logique. Le chinois qui avait acheté, il n'avait pas les moyens, et c'est le fonds d'investissement qui avait apporté ses garanties qui a dû reprendre le club malgré lui.
Mais juste te dire, parce que tu parles des moyens, et tu parles que c'est il y a 2 ans. Il faut dire que la Roma, qu'on voit très bien jouer, eh bien la Roma n'a recruté que pour 109 millions d'euros. Et je rappelle à tous les auditeurs que
109 millions.
109 millions. Et je
c'est
rappelle
énorme déjà,
que, et je rappelle que Milan a recruté pour 109 millions d'euros. Donc, quand on essaie de dire les moyens par rapport à ce qu'il en veut,
on ne parle pas que des moyens mis dans le recrutement, justement. On parle d'autres moyens.
On m'a dit c'est une équipe qui n'a pas de moyens. Alors, il faut mettre quels moyens. Si je vois que vous parlez des joueurs, ils n'ont pas les moyens de recruter. Donc, je donne des chiffres qu'ils ont recrutés il y a deux ans et qu'ils viennent encore de recruter pour 109 millions.
Mais attendez. Christophe Piatek, qui est le meilleur buteur, c'est quand même pas un attaquant de super premier plan. On a parlé de Bennacer, il y a Caissier. Enfin, il y a quand même des joueurs qui ne sont pas dans les tops européens.
Ils ont juste un top dans les gardiens.
La situation du Milan AC, moi, ça m'attriste parce que j'ai l'impression que c'est ce que pourrait devenir Manchester United. C'est que c'est un club qui a été très haut pendant de nombreuses années. C'était le meilleur club du monde pendant de nombreuses années parce qu'il était bien géré, parce qu'il était bien dirigé, parce qu'il savait recruter les stars, parce qu'il frappait fort sur le marché des transferts. Manchester United aujourd'hui, depuis le départ de Ferguson, donc depuis 6 ans maintenant, c'est un club, l'un des plus grands clubs du monde, qui ne fait que descendre année après année. Le Milan AC a totalement disparu des radars européens.
Complètement.
Il ne fait plus partie des grandes
Et là, cette année,
d'Europe.
En plus, il a été exclu de la Ligue Europa pour le fair play financier.
Le dernier, avant que le Real enchaîne ses 3 succès consécutifs en Ligue des Champions, le seul club qui avait réussi à garder sa couronne européenne, c'était le Milan AC. Mais c'était dans les années 89-90. Et aujourd'hui, le Milan n'existe plus. Aujourd'hui, les grands joueurs ne vont pas signer au Milan.
Malheureusement, rarement.
Qu'ils aient de l'argent ou pas, ça ne change rien. Les grands joueurs n'iront plus au Milan. Tant qu'ils ne feront pas partie des 3-4, allez, des 2-3 meilleures équipes italiennes,
ils n'iront pas en Ligue des Champions. Mais 2011 avec les tirs.
Oui, mais Rémi, c'est juste en 2013 qu'ils ne sont plus.
Il y a 8 ans en 2011.
Non, mais surtout, Berlusconi est parti et l'a vendu, effectivement, un Chinois. Ça a duré très longtemps, cette transition. Ça ne venait pas, quoi.
En fait, on ne sait pas où ils veulent aller. En fait, on voit pas de ligne directrice chez les nouveaux dirigeants, les dirigeants qui se succèdent. D'ailleurs, Leonardo était là, ça n'a pas marché. Il y a Maldini, on ne sait pas vraiment ce qu'il va apporter à ce club. Il faut vraiment qu'ils reconstruisent. Et moi, j'ai vu le match du Torino, et moi, j'étais pas si alarmiste que ça en fait sur le jeu, parce que là, effectivement, on parle des noms, etc. Moi, dans le jeu face au Torino, je l'ai trouvé très bon, bien meilleur que le Torino. Et pour moi, ils doivent plier ce match, mais il manque d'efficacité devant. Derrière, le carton rouge qui va changer aussi pas mal de choses, même si c'est juste après l'égalisation. Mais dans le jeu, c'est pas si mal. Et pour l'instant, ce qui manque, c'est un peu d'efficacité. Et surtout, ils construisent avec des joueurs un peu plus jeunes. Il faut leur laisser le temps.
C'est ça qui, pour le moment, sauve le Milan, c'est son centre de formation.
Ouais.
Et c'est vrai que du coup, la grosse erreur, ça a été quand les Chinois ont racheté, ils ont acheté plein de joueurs. Au lieu de justement soutenir la montée de ces jeunes formés au club.
Le problème des
investisseurs. Par exemple, quand ils ont pris Piontek, le buteur polonais Piontek. dont parlait El Refe,
qui est un bon joueur,
qui était, je crois, à la Sampdoria. Et donc, à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait de Patrick Coutron, qui était international espoir, avançant de l'équipe d'Italie espoir, ils l'ont envoyé au Wolves en Angleterre. Donc, il y a effectivement pas de cohérence dans la politique du club.
En tout cas, ce match sera à suivre, mais on reste un tout petit peu encore du côté de la Liga, parce que la Roma a pris une décision, elle qui jouera à Lecce au cours du week-end, une sanction qui est sans doute à retenir et à saluer. Les dirigeants de la Louve ont exclu à vie un supporter ce matin pour des insultes qu'il avait portées contre l'un des joueurs titulaires de cette équipe de la Roma, le défenseur brésilien Juan Jesus ou João Jesus, qui avait dénoncé d'ailleurs ces messages racistes qui étaient venus par internet, ce qui fait qu'on a retrouvé la personne. Bruno, cette semaine, justement, Gianni Infantino avait déclaré que c'était peut-être le bon exemple à suivre qui venait d'Angleterre. On va écouter Antonio Conte, parce qu'Antonio Conte, il est revenu en Italie, il avait passé 2 saisons en Angleterre et il a trouvé, en fait, que la situation en Italie avait empiré. Écoutons-le.
J'ai eu la fortune de faire une expérience en Angleterre.
J'ai eu la chance d'entraîner en Angleterre. Et là-bas, si vous tenez ce genre de propos, vous vous retrouverez en prison et vous ne retournerez plus au stade. Et ici, en Italie, on va au stade en pensant s'en prendre au footballeur, à l'adversaire, aux équipes ou à la couleur. Ce serait mieux d'encourager son équipe. C'est ça qui serait beau. Se concentrer sur son équipe. Ce serait plus éducatif pour les enfants qui viennent au stade.
Nei confronti dei bambini che vengono allo stadio.
Lundi, déjà, on avait signalé dans Radio Foot qu'il y avait eu pour la première fois aussi un moment intéressant avec un arbitre qui avait décidé d'arrêter un match contre un joueur, lui avait demandé. Il y a des messages qui ont été donnés. C'était pendant le match de l'Atalanta-Fiorentina. Est-ce que vous avez l'impression que l'exemple anglais commence à essaimer et surtout peut avoir des bons résultats?
Mais il serait temps. Il serait temps, je trouve ça assez incroyable, même que ça en arrive seulement maintenant. En Angleterre, ça fait très longtemps qu'il y a des problèmes de racisme. Les Anglais sont très fermes.
Ça a été résolu, on peut dire?
Pas totalement, parce qu'il y a encore eu un cas il y a 3 jours, West Ham, un fan avait, enfin quelqu'un avait posté une vidéo d'un fan de West Ham lors d'un match qui s'était déroulé la saison dernière, qui se moquait avec des propos racistes. Ça a mis un certain temps, mais aussitôt, en 24 heures, le supporter a été identifié, banni à vie du stade de West Ham. Donc là-dessus, ils sont très très forts, ils sont très réactifs. Mais il y a encore peu de temps, en mai dernier, on a eu la sanction finale, finalement, après plusieurs mois d'enquête sur un supporter de Chelsea qui avait insulté un propos raciste envers Raheem Sterling, le joueur de Manchester City. C'est un match qui datait de décembre 2018. Donc ils ont mis 6 mois à identifier, à sanctionner. Mais le supporter, par contre, a été banni à vie. Il y en a 5 autres qui ont été sanctionnés. Les Anglais ont cette force d'aller très très vite dans ils sont très réactifs. Et surtout, ils ont des moyens vidéo pour identifier les personnes dans les stades, pour lire ce qui se dit sur les lèvres et les sanctionner aussitôt.
Xavier, on peut se dire enfin, comme dit Bruno, oui. Mais surtout enfin en Italie, parce que ces problèmes récurrents. Cagliari n'a puni personne quand il y a eu des insultes, il me semble, contre Lukaku. Et on est toujours un peu surpris, et c'est ce que dénonçait Lilian Thuram la semaine dernière dans l'émission, en disant on va pas au bout de la punition, on ne punit pas.
Non, mais ça c'est la bonne démarche qu'a eu la Roma, c'est tout à son honneur. Après, effectivement,
ça peut être suivi.
Est-ce que les autres clubs vont suivre? Vous donniez les angles de Cagliari. Bon, c'est la Sardaigne, c'est un peu différent. C'est comme en France, si on disait tous les Français se comportent comme les Corses. Hein. Bon, voilà. Donc, on sait que c'est une île un peu à part. Donc, non, mais je pense qu'effectivement, de toute façon, là, l'exemple de ce que fait la Roma, c'est vraiment le bon exemple.
Est-ce qu'a dit peut-être Infantino, Alejandro?
Oui, je pense que Infantino, au bout d'un moment, c'est lassant de voir que chaque week-end, on a des incidents un peu partout, parce qu'il n'y a pas qu'à Cagliari, malheureusement. On en a dans d'autres stades.
Ah oui, à Bergame l'autre jour.
Donc, il a haussé la voix. Bon, il y a un supporter qui a été identifié exclu. C'est un début, mais c'est à peine l'amorce de quelque chose. Il faudra confirmer.
Les sanctions contre les supporters pour propos racistes, finalement, c'est très récent. Le premier club qui a été sanctionné, ça date de 2004. Mm-hmm. C'était le club anglais de Millwall. C'était contre un joueur malien, Jimmy Traoré, qui portait le maillot de Liverpool. Ça date de 15 ans seulement. C'est pas loin. Hein.
Rémi, c'est encourageant?
C'est encourageant et décourageant. Encourageant parce que c'est malheureusement un exemple qui à peu près arrive comme ça, comme une motte de boue qu'on jette dans l'océan, parce que ça n'aura pas beaucoup d'effet. Parce que tout, c'est la politique qu'on y met, la volonté, comme on parle de l'Angleterre.
Est-ce que c'est un début de volonté, c'est ça la question?
Ce n'est pas, non, ça c'est...
C'est la Roma quand même.
C'est la Roma. Ça n'a rien à voir avec la fédération, oui, le club, gouvernement, le système.
Mais c'est peut-être la plus importante.
Non. Moi, je dis, c'est rien du tout, parce que à une certaine période, lorsque je vois les sanctions qui sont arrivées à peu près comme du paracétamol qu'on donne à un malade souffrant du cancer, c'est depuis 2010 que on a commencé à faire des petites choses comme ça, des petites punitions. Lorsque Samuel Eto'o a eu à mimer, on a vu par exemple même sous les Muntari, c'est-à-dire que c'était en avril 2000, je peux quand même raisonner, s'est retrouvé dans une situation où, parce qu'il a voulu sortir après avoir dit à l'arbitre, l'arbitre n'a pas arrêté le match, l'arbitre ne s'est occupé de rien, et d'ailleurs la fédération a dit que, bon écoutez, il n'y avait que 10 personnes qui l'insultaient, ce qui signifie que moins de 1%. Donc subitement on dit, c'est pas grave, et on suspend le gars qui, non seulement a eu le carton rouge expulsé par l'arbitre, mais de surcroît, on lui inflige une sanction. Première des choses.
Non, mais Rémi, juste là, savoir si vous trouvez que c'est encourageant, ce premier geste, vous dites oui et non.
C'est juste ça,
on va pas tout refaire l'histoire.
C'est encourageant, Annie. Je le dis depuis que chaque fois, il y a toujours des mesurettes qui arrivent comme ça. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas encourageant, dans la mesure où vous voyez le président de la fédération qu'on appelle, Carlo Coppicilla, Chiola, machin comme ça, très compliqué à prononcer, un nom comme ça, qui, lorsqu'il est élu, par exemple, le 11 août 2014, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que
2014.
Il est celui-là. 2014, donc il avait dit quoi? Et d'ailleurs, il avait été élu à 63,6% après avoir dit que nous, en Italie, on prend un Pogba, un petit Pogba qui se transforme en ceci et tout. Mais Il avait parlé de toutes ces choses, des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent de couleur, des gens de couleur et tout et tout. On n'a rien fait. Donc, tant que le gouvernement, la fédération italienne...
Mais le gouvernement prend des... il y a des lois, Rémi. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours respectées dans les stades.
Elles n'ont jamais été respectées.
Voilà. OK.
Rémi, on passe ça fait plus d'une demi-heure que vous parlez. Les gens se plaignent parce qu'il n'y a pas eu de proverbe africain.
Ah oui, donc le proverbe africain, comme pour dire, donc, s'ils ne veulent pas de ces gens-là qui... pourtant, font des rentrées et tout et tout et tout, font la beauté du football. Eh bien, il y a un proverbe africain qui dit que tu détestes, tu insultes la vache et pourtant, tu bois son lait.
En Angleterre, le match au sommet, alors il se disputera lundi, Bruno. Manchester United reçoit Arsenal à Old Trafford, des Gunners sur une lancée victorieuse ces derniers matchs, alors que, alors on a un trio offensif, on y distingue, n'est-ce pas, l'Africain Pierre-Emerick Aubameyang. Manchester United nous semble plutôt sur une pente dangereuse, en tout cas dans le championnat, ils perdent, ils reculent. Alors est-ce que Ole Gunnar Solskjaer a une... carte dans sa manche, on va dire. Est-ce qu'ils ont quelqu'un, puisque en plus il risque de se passer de Pogba qui a encore mal à sa cheville. Eh bien, écoutons cette arme dans la manche peut-être, ou cet atout dans la manche de Solskjaer, qui s'appelle Mason Greenwood, un jeune de 17 ans à peine.
Il s'est mis en évidence à chaque fois qu'il a été sur le terrain lors de ces deux rencontres contre Astana et face à Rochdale. Lorsqu'il est dans la surface, il est dangereux. Ce qui me satisfait le concernant, et notamment dans les temps forts, c'est qu'il ne se décourage pas et qu'il cherche toujours à marquer. Lorsque vous n'avez même pas 18 ans et que vous avez déjà une telle confiance en vous et des occasions, franchement, je ne m'inquiète pas du tout pour lui. On peut le faire rentrer à n'importe quel moment du match. On peut le lancer dans le grand bain de la Première Ligue, peu importe la rencontre. Donc il a montré lors de ces deux rencontres qu'il était prêt.
Greenwood, onto his left, twisting, turning, back onto his right. Mason Greenwood, his first goal for Manchester United, and hopefully the first of many. 17, world at his feet, Greenwood makes it 1-0.
Bruno, ce jeune devenu à 17 ans et 353 jours précisément, le plus jeune buteur des Mancuniens sur la scène européenne. Est-ce que c'est un atout ? On a l'impression que tous les grands clubs européens maintenant nous sortent un jeune de la manche.
Oui, j'ai l'impression qu'ils rajeunissent en plus d'année en année. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était un certain Rashford qui à 18 ans avait marqué sous le maillot de Manchester United. Et Rashford est encore là. Et on a l'impression qu'on va déjà pousser Rashford sur le dehors.
Il est encore là, mais il ne sera pas là.
Non, il est blessé.
Il est blessé.
Il est dans le groupe.
C'est un joueur très talentueux. C'est vraiment un des prodiges de la formation de Manchester United. En tout cas, des jeunes et des jeunes Anglais qui poussent en Angleterre, que ce soit bien avec les sélections de jeunes, mais aussi dans les clubs comme Chelsea, Manchester City, Liverpool ou maintenant Manchester United. Voilà, il faut lui laisser le temps de grandir. Là, il vient de marquer deux fois en l'espace d'une semaine en Europa League et en Coupe de la Ligue cette semaine contre Rochdale. Il profite des pépins physiques de Martial, de Rashford pour jouer davantage, pour avoir davantage de temps de jeu. Mais il va falloir le laisser grandir parce que United, c'est quand même déjà un effectif extrêmement jeune. C'est la volonté de Solskjaer. Il veut rebâtir. Il a fait un peu le ménage cet été. Il veut s'appuyer sur beaucoup d'Anglais, beaucoup de joueurs britanniques. On a vu les arrivées de Maguire, de Wan-Bissaka, le petit Daniel James qui est gallois mais avec un corps britannique. Et voilà, ça fait partie de la petite ossature qu'est en train de monter Solskjaer pour essayer de reconstruire, de rebâtir ce club de United. Mais c'est un club qui part de très loin. Et aujourd'hui, Solskjaer est un petit peu sur la sellette. Il a été prolongé donc il y a pas si longtemps après l'exploit au Parc des Princes. Pour beaucoup, un peu trop rapidement, un peu trop facilement. On lui a donné un contrat de 3 ans. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que depuis Ferguson, depuis le départ de Ferguson, la retraite en 2013, le club recule. On a enchaîné les entraîneurs, des entraîneurs de renom comme Luis Van Gaal ou Mourinho, et ça n'a pas marché.
Sans leur donner peut-être
donc,
assez de
donc
temps
il faut
pour
essayer, mais... il faut essayer de nouvelles méthodes. Et à un moment donné, il faut faire ce qui a fait le succès de United et ce qui a fait le succès de Ferguson, c'est de laisser du temps à l'entraîneur pour bâtir sur un cycle de peut-être 2 ans. Maintenant, les cycles de 3 ans, c'est compliqué, mais au moins 2 ans, peut-être 3. Mais, et essayer de remettre United sur le sommet, au moins anglais déjà.
Mais bien sûr, mais là, c'est la bonne politique. Et cette politique, elle aurait dû être initiée et poursuivie sous Louis van Gaal si les dirigeants de Manchester United n'avaient pas eu la très mauvaise idée d'appeler l'ami de Rémy Nguno, José Mourinho, qui a tout cassé.
Alors, ne commencez pas à provoquer la mise.
Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Il nous reste peu de temps, là.
Telles qu'elles sont. Louis van Gaal avait lancé 14 jeux.
Il aura un proverbe.
Il avait lancé
lancé 14 jeunes de Manchester à Manchester United,
dont Rashford.
Donc, il avait lancé 14 jeunes. Alors, bien sûr, tous n'avaient pas le niveau pour rester, mais dans ce lot-là, il y avait des très bons. Et puis, tout d'un coup, Mourinho est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir des gars, lui. Il a fait venir Zlatan, un jeune. Hein. Bon, Pogba, effectivement, avait été formé à Manchester United. C'était pas forcément un mauvais choix. Mais donc Zlatan,
non, mais très cher,
Alexis Sanchez, qui est reparti depuis. Bref, il a tout cassé. Et à l'arrivée, eh ben, on retrouve maintenant que ben il faut finalement, pour installer Manchester United, il faut refaire confiance aux jeunes, comme l'avait fait Ferguson dans les années 90. Moi, j'avais été un des premiers dans France Football à faire un papier sur les bons petits diables de Ferguson, qui avait lancé Beckham, Scholes, Giggs, etc. C'est comme ça que Manchester United a grandi. C'est dans l'ADN du club. Eh bien non, on a tout foutu en l'air à cause de Mourinho. Et eh ben maintenant, on se rend compte qu'il faut repartir.
Bon.
L'avocat. Parole à l'avocat Mourinho.
Je voulais rappeler à tous nos téléspectateurs.
Rémi, vous avez une minute. Hein.
Que
minute.
José Mourinho n'a pas succédé à Ferguson. Je voulais vous rappeler. Attendez que je finisse. Je voulais rappeler aux auditeurs, quand tu fais, tu parles pas. Je voulais rappeler à tout le monde que lorsque Ferguson s'en va, il choisit David Moyes, à qui on donne un contrat de 6 ans pour bâtir une équipe. J'ai dit 6 ans. Donc, il est bien payé, il a les mains libres, choisi par Sir Alex Ferguson, sauf que, au bout de 9 mois, il est contesté, il est viré après 10 mois. Je devrais dire qu'on a quand même pris Louis Van Gaal, dont on est en train de parler, qui ne parvenait pas à qualifier l'équipe en Ligue des Champions.
Ah si.
Je veux quand même dire que...
Il les a ramenés en Ligue des Champions.
J'arrive donc jusqu'à José Mourinho, lorsqu'on l'appelle, et justement, eh bien, Manchester United finit quand même à aller en Ligue des Champions et remporte ce que le club n'avait jamais remporté, c'est-à-dire que la Ligue Europa, le club ne l'avait jamais remporté. Deuxième des choses,
attendez,
on parlait des trophées. Maintenant, Mourinho est parti. Vous prenez l'ami de Xavier Barré, qui s'appelle Solskjaer, qui réussit l'exploit à nous enchaîner 9 matchs sans gagner à l'extérieur. On dit depuis que Manchester United existe, ça n'a jamais été le cas. Qui achète le défenseur le plus cher du monde? Qui ne parvient pas à mettre un pied devant?
Mourinho a acheté
Pogba, ton frère, ton ami intime,
il a acheté Bailly, c'est pas une réussite.
Pour conclure,
aujourd'hui que José Mourinho, que vous avez chassé, a été mieux que lorsqu'on regarde aujourd'hui ce que Solskjaer. C'est pour ça que tous les techniciens et tous les supporters de Manchester United disent et ont chanté contre une équipe d'élèves, d'étudiants, de vendeurs de kebab. Ils ont battu cette équipe au tir au but. Ils ont dit, où est José Mourinho?
C'est une équipe B, voire C, qui a joué face à Rogel. C'était pas les titulaires de Manchester United.
C'est l'équipe B qui perd.
L'équipe B, elle avait éliminé le PSG.
Alejandro, un petit mot sur Manchester United avant qu'on aille directement au carton sans passer par
mot,
Miami.
J'ai craint que ce soit très compliqué ce lundi parce qu'il y a déjà beaucoup d'absents. Vous les avez plus ou moins tous cités et je pense que Solskjaer risque de ne pas aller très très loin dans son aventure parce qu'aujourd'hui ils sont 8e et s'ils continuent à dégringoler.
Les affaires vont très bien, hein. Du côté du chiffre d'affaires, c'était 700 millions d'euros.
Mais ça ne va pas durer si ça continue comme
Arsenal
ça.
Arsenal est favori de ce match, Bruno.
United aujourd'hui, en tout cas les dirigeants United, sont plus préoccupés, plus intéressés par les résultats, le bilan financier que par les résultats sportifs. Il n'y a aucune ligne directrice sportive. Après, sur Arsenal, moi je suis inquiet pour eux aussi sur ce match-là. Parce que Arsenal, avec les individus notamment offensifs, c'est la grande différence entre United et Arsenal, c'est que devant, les joueurs comme Aubameyang, même si Lacazette est blessé, mais Aubameyang est une vraie star de cette première ligue, il y a un gros danger. Il y a quelques années, United avait mis 8-2 à Arsenal à Old Trafford. Et là, j'ai un peu peur que ça pourrait être, je vais pas dire que ça va être l'inverse, mais il y a le danger. Il y a vraiment le danger que United prenne une claque.
Donc il faut qu'il y ait une réaction. Blessés, on a vu avec le PSG, ça a marché.
Mais il faut vraiment une réaction de United, là.
La seule chose, c'est que maintenant, il faudrait que, naturellement, comme c'est en train de se passer là, on m'a dit. Mais comment
Rémi, on n'a plus le temps.
Juste vous dire que. Mais c'est quand tu t'es déjà débarrassé de tes vieilles chaussures que tu te rends compte que les neuves que tu viens d'acheter te donnent des ampoules.
Là, c'est une très bonne conclusion pour passer au carton de Radio Foot.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Alors, honneur à notre stagiaire aujourd'hui, puisqu'il nous quitte, il va mener sa carrière d'ici peu tout seul. Ralph, à qui mettez-vous un carton, de quelle couleur et à qui?
Alors, moi, je mets un carton vert pour la résurrection de Santi Cazorla. Parce que, mardi soir, il a encore marqué face à Barcelone et d'ailleurs, le Camp Nou l'a ovationné. Il faut rappeler que Cazorla a connu deux années blanches où il a notamment dû subir pas moins de 10 blessures et qu'il a même frôlé l'amputation suite à une infection au tendon d'Achille de la cheville droite. Et depuis janvier 2019, il est impliqué dans 15 buts avec son club formateur de Villarreal et que ça lui a même réouvert les portes de la sélection et je trouve ça
intéressant,
formidable.
Ouais. Le retour sur les terrains de ce joueur. Bruno Constant, votre carton, quelle couleur?
Eh ben, ce sera un carton rouge pour la fédération anglaise qui a lancé une enquête contre Bernardo Silva pour avoir fait un tweet contre son coéquipier de Manchester City, Benjamin Mendy, pour racisme. Bernardo Silva avait comparé Mendy à l'effigie de sucrerie espagnole Conguito, c'est ça?
Conguito, oui.
C'est voilà, les deux joueurs se connaissent depuis Monaco, ils se chambent sans arrêt sur Twitter, et je trouve hallucinant.
C'est son meilleur ami, pratiquement.
C'est son meilleur ami, quasiment. Et je trouve hallucinant que la fédération anglaise se jette sur ce terrain.
Bah, je pense que c'est une association qui a porté l'affaire devant la fédération.
Ouais. C'est voilà, c'est hallucinant qu'on en arrive là, et c'est maintenant malheureusement le problème de Twitter, de tous ces réseaux sociaux, où il suffit qu'il y ait des gens qui se plaignent pour qu'on lance des enquêtes comme ça.
Exactement. Ouais. Xavier Barret.
Carton vert au Stade de Reims, qui est venu battre le PSG mercredi soir au Parc des
Champagne,
Princes.
Champagne, hein, on en a beaucoup parlé. Dans
nous y étions, Annie, avec David Finzel également, et surtout moi j'étais épaté parce que cette équipe de Reims j'avais vu à la télévision battre l'OM à Marseille, et je me disais ils sont quand même pas mal, et là franchement ils ont fait une véritable démonstration. Et puis surtout, c'est une équipe qui, chaque été, est ponctionnée de ses meilleurs éléments et qui trouve des solutions, avec notamment beaucoup de joueurs d'origine africaine, avec notamment ce Marshall Munetsi qui a remplacé Alexis Roma au milieu de terrain. Un garçon qui vient du Zimbabwe, qui a été flamboyant. Et je dis bravo aux dirigeants du Stade de Reims et à leur cellule de recrutement, parce qu'ils font vraiment du très beau travail.
Le carton vert de Radio Foot International, je vais voler la parole avant de la passer à mes amis. Un gardien de 22 ans, Mahmoud Gad, vous pouvez le voir sur nos images derrière nous, parce qu'il a été l'auteur d'un double arrêt extraordinaire. C'était pendant le match d'un club égyptien, ENPPI, et c'était contre Pyramide. Alors, il n'a pas empêché la déroute 4-0 face au grand club de Pyramide, mais il s'était transformé en gardien volant, Mahmoud Gad. Carton vert, évidemment. Alejandro.
Moi, un carton jaune à Neymar et à Barça qui nous ont offert un énième épisode de leur histoire d'amour mouvementé devant le juge aujourd'hui, puisque après avoir essayé de se rabibocher tout l'été, ils se disputent plusieurs dizaines de millions d'euros de primes. C'est un peu triste. C'est comme deux divorcés qui cherchent à se remettre ensemble, mais qui vont se disputer la pension pour les enfants. C'est un peu triste.
Rémi, 30 secondes.
Docteur Abdoulaye Sy, de ma page Facebook Remingon officiel, donne le carton rouge aux organisateurs du trophée de Bust, donc la FIFA, dont on connaît tout ce qui s'est passé avec des morts qui ont voté, les absents qui ont voté. Et le comble, c'est par rapport à cette équipe type où il n'y a pas de joueurs africains. Donc à une certaine période, Infantino ne peut pas se lever, nous faire des grands discours de lutte contre le racisme, de lutte ceci, des minorités. Il fait tous ces trucs-là, et finalement, lui-même, il voit que son équipe, là,
bah, c'est pas Infantino qui a fait cette équipe.
Attendez, c'est
pas lui qui a voté, Rémi.
C'est la FIFA qui nous donne cette équipe-là. Donc, non, c'est pas les joueurs qui constituent l'équipe type. L'équipe type, mais attendez. Donc, on nous montre une équipe,
Rémi,
sans Africains. Comme le dit donc un proverbe africain, lui qui combat le racisme, et un proverbe africain qui dit: commence d'abord à enlever l'épine qu'il y a dans ta fesse avant d'aller enlever l'épine sur le pied de l'autre.
Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous revoir en podcast. Merci à tous.